Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yannick Trigance, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, président du Conseil national du Parti socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Yannick Trigance, pour commencer, un mot du rassemblement de mardi soir, place de la République, à l'initiative de votre parti, le Parti socialiste. Les principales formations politiques françaises et le gouvernement se sont rassemblés pour dire non à l'antisémitisme. Vous étiez présent. C'était un moment important après les derniers actes antisémites de ces derniers jours.
Bien sûr, c'était un moment extrêmement important pour la bonne et simple raison que l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de tous les Français. C'est l'affaire de tous les Républicains. Et que cette initiative a été prise par Olivier Faure et par le Parti Socialiste parce que l'antisémitisme est un combat que doivent porter tous les Français. Et que lorsque quelqu'un attaque une personne parce qu'elle est juive, elle porte atteinte à toute la République. Et qu'en ce sens, le rassemblement très très large de toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans ces valeurs de la République a été un moment important qui doit avoir des suites, hein. Bien évidemment, au-delà de ce moment fort, il faut que derrière, il y ait ce travail collectif du refus de toutes ces valeurs nauséabondes que certains essaient de diffuser dans notre société.
Alors justement, vous parlez des suites, Yannick Trigance. Le président Emmanuel Macron veut une loi pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Un texte sera proposé en mai prochain. Il s'agira notamment de supprimer les contenus illégaux sur Internet, notamment sur Twitter, puisqu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire supprimer ces contenus. Il s'agira aussi de demander à ces plateformes de donner les identifiants des personnes qui colportent ces messages haineux. C'est une initiative que vous saluez, que vous soutenez ?
On ne peut pas être opposé à ce type d'initiative. Toutes les idées doivent être étudiées. En même temps, il faut en mesurer l'efficacité ou l'efficience potentielle. Je reste un peu sceptique sur le contrôle de l'information de cette manière-là. C'est une idée, en tout cas, à creuser. Personnellement, je reste profondément attaché et convaincu que la question de l'éducation reste quand même le levier sur lequel nous devons travailler. Et quand je parle de l'éducation, il ne s'agit pas, bien évidemment, vous l'aurez compris, que de la seule école, hein, mais de toutes celles et tous ceux qui, auprès des jeunes, à un moment donné, peuvent travailler ces questions-là. Je pense que l'éducation reste vraiment l'élément moteur pour préparer les citoyens de demain et pour faire face justement à ces dangers. Parce que, je voudrais aussi le dire, finalement, il y a quand même un grand risque de nos jours, c'est la banalisation. Considérer que de tels actes, à un moment donné, rentreraient dans quelque chose à laquelle on s'habitue, il n'y a rien de plus dangereux. Et donc, pour garder cette vigilance, pour garder cette capacité de réactivité et de réaction, il faut, dès le plus jeune âge, travailler ces questions-là, dès le plus jeune âge, parler de la République, parler du vivre ensemble, parler aussi de l'altérité, de la différence, non pas comme un élément de division, mais comme un élément d'enrichissement pour toutes et tous.
De la même manière, vous diriez aussi que les médias ont aussi une part de responsabilité en, par exemple, refusant d'inviter trop souvent des gens qui tiennent des propos qui divisent. Je pense, par exemple, à quelqu'un comme Éric Zemmour, qu'on voit beaucoup sur les plateaux de télévision et qui a tendance à pratiquer l'amalgame entre islamisme et islam.
Bien évidemment, alors je ne jette pas la pierre aux médias. Peut-être trop souvent, on accuse aussi les médias, mais tout de même, c'est quand même assez étonnant de voir que de tels personnages sont régulièrement invités quand dans le même temps, je parle par exemple de mon organisation politique, il a fallu que publiquement on dénonce le fait que dans de grandes émissions sur le service public France Télévisions, par exemple, récemment, il n'y avait aucun responsable du Parti Socialiste invité. Je prends cet exemple parce que c'est ma famille politique, mais pour dire qu'il y a des choses qui sont quand même un peu choquantes et qu'il faut être vigilant par rapport à cela et que les médias, à mon sens, doivent veiller finalement au pluralisme qui existe dans notre société, parce que c'est aussi le gage de la survie de notre démocratie.
Yannick Trigance, vous êtes un spécialiste de l'éducation au Parti Socialiste. La loi Blanquer sur l'école a été adoptée il y a quelques jours. 5 organisations syndicales avaient demandé aux députés de ne pas la voter. Un texte que vous avez critiqué, vous aussi, d'ailleurs en le décortiquant, car c'est assez complexe à comprendre. Vous qui êtes un spécialiste de l'éducation, est-ce que vous pouvez d'abord nous en résumer les grandes lignes? Nous aurons ensuite le temps d'entrer dans le détail.
Alors, résumer un texte de loi comme celui-ci en quelques mots, l'exercice est pour le moins difficile, vous avez raison. Pour autant, je voudrais commencer par une remarque. Je me souviens lors du discours de passation entre Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Michel Blanquer, après les élections législatives, où Jean-Michel Blanquer avait déclaré, c'est d'ailleurs dans la presse encore, on retrouve ses déclarations, qu'il ne ferait pas de loi sur le secteur de l'éducation dont il prenait la responsabilité. Et 18 mois après, on se rend compte que de la maternelle jusqu'à l'université, eh bien, il a tout démantelé pour finalement remettre en place une loi Blanquer, Parcoursup dans le supérieur, mais tout ça pour dire que contrairement à ce qu'il invoquait lorsqu'il est arrivé, finalement, il a tout démantelé, et c'est assez inquiétant, parce que d'abord, l'éducation nationale, le rythme de vie de l'école ne vit pas au rythme de la politique, et que le temps de l'école n'est pas le temps du politique, et qu'il faut laisser le temps à l'école de s'approprier les dispositifs, il faut laisser le temps à l'école, on en reparlera sans doute tout à l'heure, d'évaluer aussi les politiques éducatives avant que de vouloir tout transformer et tout changer. Je dirais en un mot que la loi Blanquer, à mon sens, vous savez qu'elle est intitulée pour l'école de la confiance, et moi je dirais plutôt que c'est une loi pour l'école de la défiance, et défiance envers un certain nombre de sujets dont on va reparler. Je pense que c'est une loi qui aggrave les inégalités, je pense que c'est une loi aussi qui fait la part à l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public. Je pense que c'est une loi aussi qui, quelque part, porte atteinte au droit d'expression des enseignants, à la mise en concurrence entre les établissements, et que s'il y a des mesures contre face auxquelles on peut considérer que, finalement, les choses ne sont pas si mal que ça, je pense que, globalement, c'est une loi de régression éducative.
Alors, justement, selon vous, qu'est-ce qu'il entend, Jean-Michel Blanquer, quand il parle d'école de la confiance ?
Et moi, il faudrait poser la question au ministre lui-même, parce que ce que je vois à l'issue des débats parlementaires, qui d'ailleurs ont soulevé un certain nombre de critiques et d'oppositions...
Il y a eu des frondeurs
pas seulement,
au sein de La République En Marche.
Pas seulement par les députés de l'opposition, mais y compris un nombre non négligeable de députés En Marche qui se sont donc opposés sur un certain nombre de sujets... à cette loi, une école de la défiance parce que je disais, et si on prend le début de la chaîne éducative sur par exemple la question de l'école maternelle qui de par l'instruction obligatoire à 3 ans finalement, alors que déjà 98% des enfants de 3 ans sur le territoire de la République sont scolarisés, en fait cette instruction obligatoire est une porte ouverte au financement de la maternelle privée, puisque en rendant l'instruction obligatoire à 3 ans, eh bien le ministre va obliger les collectivités à financer les maternelles privées. Ça va quand même être entre 50 à 150 millions d'euros aux charges des collectivités.
Alors, j'ai vu que vous lancez cette accusation contre le ministre.
Ça n'est pas une accusation, c'est un constat. Dans la loi lui-même, c'est indiqué, il y a un des articles qui précise que, du coup, avec l'instruction obligatoire, c'est à la charge évidemment du fonctionnement pour les collectivités, et que jusqu'alors, vous savez que n'importe quelle commune n'avait pas à financer le fonctionnement des écoles maternelles privées, c'est-à-dire les ATSEM, il n'y avait pas besoin, hein, et avec cette loi, eh bien maintenant, les collectivités devront financer les maternelles privées. Ce qui veut dire qu'il y aura des moyens en moins pour les maternelles public, puisque les collectivités vont devoir payer cela, et que, indépendamment de la question donc des locaux dans l'enseignement public, qui va se poser notamment pour que les petits dorment l'après-midi, puisque enseignement obligatoire, instruction obligatoire, ils vont être présents toute la journée. On a donc, le ministre a introduit ce financement de l'école maternelle privée.
Mais sur le principe, Yannick Trigans, vous êtes tout de même d'accord que plus tôt un enfant va à l'école, plus il a de chances de réussir sa scolarité. Vous-même, vous avez défendu l'instruction à 3 ans.
Bien sûr, mais absolument. Mais d'abord, sur l'instruction obligatoire, on est à plus de 98% des enfants de 3 ans qui sont déjà scolarisés. Donc en gros, ça concerne 26 000 enfants, dont notamment une partie importante dans les DOM-TOM, à Mayotte également, hein, sur le territoire de la métropole, beaucoup moins. Mais ce que nous disons, nous, c'est que, cela ne doit pas amener les communes à financer les maternelles privées qui, nous le rappelons, n'ont pas les mêmes obligations d'accueil que l'enseignement public. Puis surtout, très important, c'est que cette instruction obligatoire, du coup, comme les communes vont devoir financer, on peut considérer aujourd'hui que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, que je défends depuis de nombreuses années et qui est un formidable levier dans la lutte contre les inégalités, va disparaître parce que les communes n'auront plus la possibilité et que le ministre n'aura pas les moyens budgétaires pour pouvoir mettre des enseignants dans les classes d'enfants de moins de 3 ans. Il faut dire enfin que le ministre Blanquer n'a jamais été favorable à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, puisque lorsqu'il était le directeur général de l'enseignement scolaire sous Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a, par exemple, ramené en Seine-Saint-Denis la scolarisation des enfants de moins de 3 ans de 12% à 0%. Donc déjà à l'époque, il y avait cette opposition à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Je rappellerai que le ministre de l'époque, Monsieur Darcos, de mémoire, avait déclaré que l'après-midi, les enseignants de maternelle n'étaient là que pour changer les couches culottes des enfants des petites sections. À l'époque, j'étais directeur d'école maternelle et je peux vous dire que nous avions été profondément blessés et humiliés de ces déclarations ministérielles.
Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'une école pour quelques-uns au détriment d'une école pour tous ?
Pour plusieurs raisons. Lorsque vous introduisez, par exemple, sur la question de l'école maternelle, je viens de le dire, vous allez écarter tout un pan de scolarisation de ces petits de moins de 3 ans dont on connaît notamment les difficultés dans un certain nombre d'endroits, et qu'il a été prouvé pour le coup scientifiquement que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans permettait donc à ces enfants de rentrer par exemple dans la maîtrise du langage et de réduire les inégalités. Sur la question du collège, le démantèlement de la réforme du collège par le ministre, je rappelle quand même que nous avions décidé sous Najat Vallaud-Belkacem de avoir une seconde langue dès la classe de 5e.
Là, c'est supprimé.
En tout cas, c'est introduit effectivement différemment, puisque il est revenu notamment aussi sur l'accompagnement personnalisé des élèves avec un certain nombre d'ateliers qui étaient mis en place. Il y avait également des filières qui étaient que nous avions nous pour le coup mis de côté. Parce qu'en introduisant la seconde langue vivante, il n'y avait plus besoin d'avoir ces filières de tri scolaire, notamment avec des filières qui étaient mises en place, européennes et d'autres, que le ministre a décidé de remettre. Donc il rétablit finalement ce tri qui est fait à l'intérieur même d'un certain nombre d'établissements quand on connaît quel profil d'élèves vont dans ces sections. Je pourrais multiplier les exemples, notamment sur le lycée professionnel, ou la politique qui est mise en place actuellement. Pour pouvoir, par exemple, dédoubler les CP et les CE1, le ministre va récupérer 2650 postes dans le second degré, dont 900 rien que sur les lycées professionnels. Et donc, là encore, il y a un coup porté au lycée professionnel, et on sait bien que les lycées professionnels sont très souvent fréquentés par des élèves dont on connaît le milieu socio-économique et dont on connaît les difficultés. Et donc la situation va s'aggraver dans les lycées professionnels au moment où le ministre, en plus, introduit une réforme de l'enseignement professionnel dont aujourd'hui on ne sait pas comment elle va être mise en œuvre, parce que les moyens, précisément en poste budgétaire, sont transférés sur le premier degré pour pouvoir dédoubler les CP et les CE1.
Alors, je reviens sur une expression que vous avez employée. Vous parlez de tournant idéologique dans cette loi. C'est quoi l'idéologie de Jean-Michel Blanquer ?
Je pense que l'idéologie de Jean-Michel Blanquer, c'est la mise en concurrence des établissements scolaires. C'est également la conception d'une société où... en gros, si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est d'abord et avant tout la responsabilité des parents, notamment, et que c'est aussi cette idéologie, la volonté de tout contrôler. Je pourrais aussi citer, par exemple, c'est l'article 1 de la loi qui, finalement, dans les faits, va réduire le droit d'expression des enseignants, notamment sur les réseaux sociaux. C'est aussi cette idéologie, cette volonté de mainmise sur le système éducatif. On en reparlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il existait jusqu'alors donc le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, le CNESCO, qui fait un travail absolument remarquable, reconnu par toute la communauté éducative, que le ministre a décidé d'éliminer pour mettre en place un conseil de l'évaluation du système éducatif dont il va nommer les trois quarts des membres lui-même. Et donc pour quelqu'un qui prétend s'appuyer sur les évaluations, là pour le coup, il va mettre en place une évaluation interne, donc forcément subjective, pour finalement pouvoir faire dire ce qu'il veut aux évaluations qui pourraient être faites.
Yannick Trigans, je reviens sur une de vos déclarations. Vous venez de dire que finalement la nouvelle loi va interdire aux enseignants de critiquer leur institution. On dit que les fonctionnaires ont un devoir de réserve. Il y a des nouveautés introduites dans cette réforme, c'est-à-dire que auparavant c'était les recteurs, les directeurs qui ne pouvaient pas s'exprimer. Aujourd'hui, tous les enseignants vont devoir surveiller un petit peu leur langage quand ils s'expriment publiquement.
Alors, je n'ai pas dit interdire, mais j'ai dit qu'il y a une régression dans le droit à l'expression des enseignants. L'article 1er, d'ailleurs, comme finalement un peu toute cette loi, je le disais tout à l'heure, la méthode du ministre, finalement, elle est assez habile et dans le même temps, elle est assez inquiétante. C'est-à-dire qu'il sait, d'une certaine manière, comment rassurer l'opinion en jouant systématiquement sur deux tableaux. D'abord, la référence à une école du passé un peu idéalisée, hein, et puis en même temps, par une modernisation du système, une pseudo-modernisation grâce à la science, et notamment toute la question des sciences cognitives. Mais pour revenir à votre question sur le droit d'expression, l'article 1 de la loi rappelle que la qualité du service public de l'éducation dépend de la cohésion de la communauté éducative autour de la transmission de connaissances et de valeurs partagées. Cela signifie, pour les personnels, une exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions et pour les familles, le respect de l'institution scolaire dans ses principes comme dans son fonctionnement.
Donc ça, c'est tout à fait nouveau.
C'est tout à fait nouveau. Et donc, c'est évidemment sous-tendu la question du droit d'expression des enseignants qui d'ailleurs l'ont fait savoir. Il y a eu un certain nombre de pétitions pour s'élever. Vous savez, sur cette loi, il y a eu plus de 1 000 000 d'amendements qui ont été déposés pour essayer un peu d'inverser le cours des choses, mais la majorité restant la majorité, même si sur certains sujets, le ministre a été obligé de faire un peu marche arrière. On en reparlera peut-être sur un amendement du député Ciotti et sur l'accompagnement des sorties scolaires par les mamans que le ministre soutenait, mais que fort heureusement a été rejeté cet amendement.
Nous en reparlerons après la pause. L'invité de Pluriel est Yannick Trigans, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, président du Conseil national du Parti socialiste. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Trigance, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, président du conseil national du PS. Alors, vous l'avez dit, Jean-Michel Blanquer a soutenu un amendement qui visait à interdire aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires, amendement qui a été finalement retoqué. Vous avez été choqué qu'on remette sur la table ce vieux sujet, empêcher les mères de famille voilées de participer à des sorties scolaires?
Absolument, j'ai été choqué. J'ai été directeur d'école pendant plus de 20 ans, en école maternelle, en école élémentaire et en éducation prioritaire. Et si j'avais dû, interdire à des mamans voilées d'accompagner des enfants dans les sorties scolaires, je pense que j'aurais eu les trois quarts de mes sorties scolaires de supprimer. Et que dans le même temps, ces mamans que je connaissais, dans ces sorties scolaires, n'étaient aucunement dans des situations d'un quelconque prosélytisme. Et que il faut aussi savoir ce qu'est la vie quotidienne dans les écoles et dans un certain nombre d'endroits. Et que ce type d'amendement, c'est au-delà du caractère, je trouve, extrêmement inquiétant et dangereux, c'est aussi une profonde méconnaissance de la réalité de la vie de nos écoles. Le ministre Blanquer, d'ailleurs, soutenait cet amendement, et fort heureusement, il a été mis en minorité, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'est la vie aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits. Et encore une fois, quand on connaît les parents, quand on discute avec eux, on sait bien que les mamans qui peuvent être voilées et qui peuvent accompagner, et qui ne sont pas des agents du service public, précisément, font finalement ce qu'on attend de tout accompagnateur. C'est une mauvaise polémique.
Et Éric Ciotti, en introduisant cet amendement, avait une vision dévoyée de la laïcité?
Je le pense. Je pense que ce genre de propositions, ce genre de remarques, ce genre de comportement nuit quelque part au principe de laïcité. La laïcité, c'est avant tout le vivre ensemble. Il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'épithète, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de laïcité, voyez, ouverte ou fermée, non. Il y a un principe, c'est la laïcité. À partir du moment où on connaît les gens, à partir du moment où il y a un comportement respectueux de la conscience des enfants, il n'y a aucune raison de vouloir écarter des parents qui veulent s'inscrire dans le processus éducatif de leur enfant, parce qu'on ne le dit pas suffisamment souvent, à mon avis, mais la réussite d'un enfant, elle passe inévitablement par l'inscription du parent et par la participation des parents au processus éducatif. Parce que les parents sont les premiers, finalement, éducateurs, entre guillemets, de leur enfant, et que l'école de la République doit permettre à ses parents de trouver toute leur place auprès de leur enfant dans le processus éducatif.
Et pour le coup, c'est ça l'école de la confiance.
Et l'école de la confiance, exactement, c'est cela.
Alors Yannick Trigance, en vous lisant sur votre blog, j'ai finalement découvert un scoop, puisque vous nous annoncez que cette loi va entraîner la disparition pure et simple de nos directrices et directeurs d'école primaire. Qu'est-ce qui vous incite à nous dire cela? Parce que on n'en a pas encore vraiment parlé dans les médias.
Alors, effectivement, on n'en a pas encore entendu parler dans les médias, d'abord parce que ça vient d'être voté, mais il faut savoir que dans la loi Blanquer a été créé l'établissement public des savoirs fondamentaux, EPSF, qui est constitué d'un collège et de une ou plusieurs écoles du secteur du recrutement du collège. Et que ce regroupement en un seul établissement va se faire sous la responsabilité du chef d'établissement du collège, qui aura en charge non seulement la gestion du collège, mais également la gestion des écoles qui dépendent du secteur du collège. Alors il aura des adjoints, mais très important, ces adjoints qui auront à s'occuper des écoles primaires ne seront pas des directeurs d'école. Ce seront des chefs d'établissement qui, comme le principal de collège, auront passé le concours de personnel de direction Les enseignants connaissent bien ça, c'est le concours de PERDIR, personnel de direction. Donc, ces personnels-là, qui sont chefs d'établissement, comme le principal de collège ou un proviseur de lycée, eh bien, ce sont eux qui seront responsables de la gestion de l'école. Et donc, les directrices et directeurs d'école qui existent aujourd'hui sont amenés à disparaître, puisque, je vous le rappelle, et là, je parle y compris de mon expérience professionnelle, lorsque j'étais directeur d'école, j'étais statutairement enseignant chargé des fonctions de direction. Parce qu'il n'y a pas de statut du directeur d'école au sens où l'école, il n'y a pas de conseil d'administration, c'est pas un établissement en tant que tel. Hein, c'est et donc, du coup, eh bien, la directrice ou le directeur d'école est amené à disparaître puisque la tutelle administrative sera assurée par l'adjoint du collège du secteur.
Alors, le directeur, la directrice d'école va disparaître, remplacé donc par un chef d'établissement qui n'aura pas le statut. C'est pour vous une régression? Ça n'est pas un progrès?
Ah non, c'est une formidable régression. Parce que qui va gérer les livraisons du matériel qui arrive dans l'école? Encore une fois, faut qu'on parle de la vraie vie d'une école. C'est bien de voter des textes à l'Assemblée nationale.
Ce chef d'établissement ne va pas le faire, ne va pas faire ses tâches qui étaient dévolues au directeur d'école.
Ce chef d'établissement sera d'abord un chef d'établissement donc de l'équivalent du second degré. Il dépendra du principal du collège, mais il ne sera pas rattaché. Il ne sera pas dans l'école. Vous avez des écoles qui sont distantes du collège, parfois d'un kilomètre, et donc il n'y aura plus de pivot au sein de l'école.
Il n'y aura plus de référent.
Il y aura, voilà, de référent, le terme est aussi bon. Il n'y aura plus non plus d'animateurs pédagogiques et de responsables administratifs au sein même de l'école à temps plein comme le sont aujourd'hui les directeurs d'école. Donc vous aurez quelqu'un qui viendra de temps en temps voir si tout se passe bien. Mais le directeur d'école, la directrice d'école, donc l'enseignant chargé des fonctions de direction, n'apparaît nullement dans ce projet, dans cette loi, parce que c'est aujourd'hui une loi, il n'apparaît plus, il n'existe plus.
Pour quelle raison, selon vous? Est-ce que c'est pour faire des économies?
Bien sûr. C'est une question d'économie budgétaire. Ça n'est pas la même chose lorsque vous avez un adjoint qui va gérer deux ou trois écoles que lorsque vous avez un directeur d'école qu'il faut en plus remplacer dans sa classe pendant qu'il est dans son bureau. Donc là, il y a bien évidemment, d'un point de vue budgétaire, des économies importantes à réaliser en tant que poste, en termes de poste. Et quand on sait que le ministre Blanquer, aujourd'hui, est dans un budget limité, puisque vous voyez bien que pour faire les CPCE1, il est obligé de prendre des postes au niveau du lycée. Et donc, il y a une gestion comptable, administrative, des effectifs.
Et Yannick Trigance, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les parents et pour les élèves?
La vie va changer, parce que, là encore, je parle de mon vécu. Lorsque j'étais directeur d'école, j'étais à la porte de l'école quatre fois par jour, à 8h20 lorsque les parents arrivaient avec les élèves pour les accueillir, à 11h20 lorsque les élèves sortaient, puis à 13h et puis à 16h. Et là, je peux vous dire que le rôle de la directrice ou directeur d'école en termes de lien, en termes de relation avec les parents, en termes de contact, est éminemment important.
Donc, il peut y avoir des questions sécuritaires, des questions de sécurité, liées à la santé.
Alors, à la santé, en tout cas, des questions de sécurité, oui, parce que la présence humaine produit de la sécurité en tant que telle, et que la directrice ou le directeur, encore aujourd'hui, joue un rôle irremplaçable au sein des écoles, ne sont d'ailleurs pas reconnus, et j'ai récemment écrit une tribune, notamment sur la question, à l'époque, justement, de manière un peu précurseur, si je puis dire, j'alertais les parlementaires sur cette question de la direction d'école, qui n'a toujours pas de statut aujourd'hui, et d'ailleurs, on peut le comprendre peut-être, parce que du coup, avec ce qui est en train de se préparer, les directrices et les directeurs d'école sont amenés à disparaître. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que nous avions mis en place sous le gouvernement précédent la continuité, le continuum pédagogique entre l'école élémentaire et le collège. C'est-à-dire, on l'appelait à l'époque l'école du socle, c'est-à-dire arriver à articuler. Vous savez que beaucoup d'élèves qui passent en sixième perdent pied au collège, parce que la vie est complètement différente, parce qu'on change de classe, parce qu'on change de professeur, et que beaucoup d'élèves, notamment les élèves qui sont le plus fragilisés, peuvent perdre pied en arrivant au collège. Et donc, nous avions mis en place le cycle avec la classe de sixième, le CM2 et le CM1. On en avait fait un cycle pédagogique. Nous, lorsque l'on parlait de continuum pédagogique, entre les deux structures, c'était de cela dont on parlait. Dans le texte de loi, cette école dont parle le ministre Il n'y a aucune motivation pédagogique. Aucune motivation pédagogique n'apparaît dans le texte
de la
loi.
Pure comptabilité.
On est dans la gestion administrative, on est dans la gestion comptable d'un budget. Et donc c'est cela aussi qui est extrêmement inquiétant dans le cadre du parcours éducatif de chaque jeune.
Yannick Trigance, j'aimerais qu'on parle de la réforme du bac. J'ai entendu une proviseure de lycée dire que la réforme du bac allait créer plus d'égalité car certaines options ne seront proposées que dans certains lycées qui sont parfois dévalorisés. Et cela va donc attirer des élèves de milieux favorisés vers des lycées qui peuvent avoir mauvaise réputation. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Pas vraiment. Parce que la réalité, c'est que sur ce que doivent mettre en place, ce qui est annoncé dans le texte de la réforme, il y a notamment 12. Il y a une série de 12 choix possibles. Mais quelle est la réalité ? C'est que vous avez des lycées qui vont pouvoir proposer les 12. Et puis vous avez des lycées. Dans le texte de la réforme, il est dit qu'il en faut au moins 7. Il en faut au moins 7. Et lesquels ? Donc si vous voulez, non, c'est pas un facteur d'égalité. Je pense même que ça va poser un certain nombre de difficultés, parce qu'il y a des territoires, il y a des lycées qui vont pouvoir proposer les 12 sans aucun problème. Il y en a qui pourront pas pour tout un tas de raisons. Et le ministre dit que si on peut pas trouver au sein même d'un lycée l'ensemble de ses choix, eh bien on pourra aller dans d'autres lycées. J'étais ce lundi, j'étais dans la région Occitane. J'étais à Toulouse pour justement échanger avec les conseillers régionaux sur la réforme de l'enseignement général et technologique et sur l'enseignement et sur la réforme du lycée professionnel. Mais c'est une catastrophe dans les milieux semi-ruraux et ruraux parce que vous allez avoir des établissements où il y aura pas la possibilité pour tout un tas de raisons.
Parce qu'ils seront trop éloignés aussi des élèves.
Bien sûr. Et donc vous avez des élèves qui pourront pas se déplacer pour aller choisir celle à laquelle ils prétendent. Et donc ils seront entre guillemets limités, coincés dans un choix extrêmement restreint. Alors il y a des endroits, j'ai pas de souci, je sais qu'il y aura tout ce qu'il faut en termes d'options.
Vous pensez à Paris par exemple.
Pas seulement, hein, il y a des villes aussi il y a des endroits où les établissements ont des moyens, mais du coup, quand je parlais tout à l'heure de mise en compétition, mise en concurrence des établissements sur la philosophie générale de cette loi, vous voyez que là on est au cœur. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, il va y avoir non seulement des choix limités, des endroits où les lycéens ne pourront pas se déplacer, en tout cas qu'un certain nombre d'entre eux, encore une fois, ne pourront pas se déplacer. Il y en a qui pourront, parce que les parents pourront les emmener, sans compter que une grande partie de cette réforme va aussi, notamment sur le lycée professionnel, reposer encore une fois sur les collectivités territoriales et notamment sur les régions, avec une aggravation des charges, hein, sur les régions qui ne pourront pas toutes financer ce que va engendrer cette loi, sans parler de la fermeture extrêmement inquiétante d'un certain nombre de centres de formation et d'apprentissage, puisqu'il va y avoir, notamment dans un certain nombre d'endroits, la fermeture d'un certain nombre de CFA, puisque maintenant le ministre veut compter les élèves dans chaque filière pour décider s'il les maintient ou non.
Sur le fond aussi des matières qui sont proposées en option au bac, est-ce que vous pensez que c'est un plus pour les élèves de pouvoir, je dirais, panacher un peu leur scolarité avec des matières qu'ils préfèrent et en exclure d'autres? Voilà, sur le fond, est-ce que c'est intéressant?
Moi, j'ai regardé les différentes possibilités, les différentes options. Je trouve que le travail a été bien fait. C'est-à-dire que ça recoupe bien aujourd'hui l'évolution, les préoccupations. Vous voyez, par exemple, sur la réforme du lycée professionnel, dont on parle pas suffisamment souvent, à mon avis, on a un problème dans notre pays avec l'enseignement professionnel, profondément dévalorisé. Je trouve que, pour le coup, en tout cas, en termes d'affichage, il y a une réflexion sur les filières professionnelles.
Plus en phase aussi avec les métiers. Les métiers qui embauchent.
Je pense au numérique, par exemple, hein. C'est un exemple parmi d'autres. Je pense aussi à, il y a une des filières dans l'enseignement professionnel qui s'appelle beauté et bien-être, qui correspondent aussi à des évolutions de la société. Donc je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et puis, si vous me permettez, sur la réforme du bac, je pense quand même qu'il manque quelque chose. C'est une réflexion là encore de continuum pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune articulation avec l'université et avec Parcoursup. Or, là encore, je parlais tout à l'heure de l'articulation entre le CM2 et la 6e, mais l'articulation entre la terminale aujourd'hui et l'enseignement supérieur, il y a là un manque de réflexion. Dans cette loi du baccalauréat, de la réforme du lycée, et la question des passerelles entre les lycées et l'université n'est pas traitée. La rénovation du système d'orientation pose un vrai problème aujourd'hui. Or, on sait que c'est un élément extrêmement discriminant entre les élèves. Or, le système d'orientation tel qu'il est fait...
Il y a les élèves qui ont l'information et ceux qui n'ont
pas. Absolument. Et aujourd'hui, tout ça est renvoyé sur les régions qui vont devoir, d'ailleurs, on ne sait pas si les personnels, enfin, où ils vont mettre. Et puis enfin, sur le lycée, il y a une pression très forte sur les professeurs principaux. Parce que dans la réforme du lycée, il y a deux professeurs principaux qui doivent s'occuper de l'orientation des élèves, du suivi des élèves, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité pour un bon nombre d'entre eux. D'ailleurs, il y a eu, dans un certain nombre d'endroits, des pétitions et même des démissions dans l'académie de mémoire, justement, de Toulouse, où j'étais lundi. Plus de 150 professeurs ont démissionné de leur fonction de professeurs principaux.
Yannick Trigance, est-ce que cette loi Blanquer va permettre l'inclusion de davantage d'élèves handicapés à l'école, puisque la France, malheureusement, ne propose pas toujours d'offres scolaires adaptées à ces enfants?
Alors, là encore, il y a eu, dans la loi d'ailleurs, la question a été amenée très très tard, la question du handicap dans la discussion parlementaire a été amenée très très tard dans la discussion. Aujourd'hui, la réalité de ce que veut faire le ministre, à savoir une mutualisation des moyens, un regroupement des accompagnateurs, non plus auprès des élèves, mais un pool global de gestion des situations rattachées aux établissements, là encore traduit, à mon sens, un manque de moyens budgétaires, et donc une gestion un peu au coup par coup. Deux, un manque de concertation avec les maisons départementales du handicap, puisque vous savez que ça relève des maisons départementales du handicap pour l'affectation et le suivi. Et trois, surtout, un manque de formation, qu'il n'y a toujours pas aujourd'hui de manière complète et sérieuse de ces personnels, parce que, là encore, je l'ai vécu dans les écoles, on n'accompagne pas un enfant porteur de handicap au pied levé. C'est d'abord et avant tout un vrai métier. Et donc, il faut former les personnes qui vont être amenées à accompagner. Et là, je trouve que, ce qu'est proposé par le ministre ne prend pas en compte la réalité, encore une fois, de nos établissements, parce que malheureusement, vous savez qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui aujourd'hui, cette fameuse école inclusive, ça n'est pas encore une réalité dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas fréquenter l'école.
On n'a pas encore parlé des effectifs. Il nous reste peu de temps. Est-ce que les réformes engagées par Jean-Michel Blanquer vont permettre de résoudre la crise des vocations dans l'enseignement? On sait que dans certains départements, comme la Seine-Saint-Denis, on a le plus grand mal à recruter des enseignants.
Écoutez, malheureusement, d'abord d'un point de vue budgétaire, les promesses faites par le ministre lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, on le voit bien, ne suffisent pas, puisque, encore une fois, je le disais tout à l'heure, le dédoublement des CP, des CE1, dont on peut penser que c'est un dispositif par ailleurs intéressant, eh bien, se fait au détriment de l'enseignement du second degré. Hein. Donc, il y a des postes qui sont récupérés. Regardez ce qui se passe en ce moment. On a les premiers éléments de carte scolaire qui arrivent, c'est-à-dire où les écoles apprennent les fermetures de classes dans les départements. Et on voit bien un peu partout, je le vois en Île-de-France, mais je sais que c'est aussi, je vois aussi en province, où il y a des mouvements qui commencent à s'organiser.
Beaucoup d'inquiétudes.
De parents, d'enseignants, non seulement des inquiétudes, mais il y a des suppressions de classes dans bon nombre d'endroits. Et j'en discutais encore avec notre député Boris Vallot du département des Landes, et son département est en très grande difficulté alors qu'il y a là des besoins d'encadrement importants. La formation des enseignants, là aussi, doit être quelque chose qui doit être mis en place, non seulement de formation initiale, mais aussi de formation continue. Enfin, sur l'attractivité du métier, je pense que, là encore, je regrette que le ministre ait bloqué le processus de revalorisation qui avait été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem, intitulé le PPCR, qui avait fait d'ailleurs l'unanimité des syndicats d'enseignants. Et je vois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune revalorisation des enseignants qui est prévue. Or, je vous le rappelle, les enseignants français sont parmi les moins bien payé de l'OCDE, et je pense qu'un des leviers pour pouvoir attirer et rendre la profession attractive passe aussi, bien évidemment, par la question du salaire.
Pour terminer en 30 secondes, vous êtes conseiller régional. Valérie Pécresse demande de faire commencer tous les cours au lycée à 9h, notamment pour désaturer les transports en commun. C'est une idée que vous pouvez soutenir ?
Écoutez, moi, je me souviens que Valérie Pécresse, il y a quelque temps, sur les questions d'éducation, avait aussi, comme ça, lancé un sujet. C'était la consommation de cannabis chez les lycéens. Et donc, elle avait dit, on va détecter les lycéens qui fument du cannabis dans les lycées. Et puis, tout ça a été très rapidement oublié. Donc, elle attrape comme ça un certain nombre de sujets, encore une fois, dans l'actualité, mais sans réflexion sérieuse sur le sujet. La question, je l'invite sur cette question qui consiste à faire débuter l'école à 9h, qu'on peut ne pas rejeter a priori, mais j'aimerais qu'elle ait une réflexion globale sur le temps de la scolarité en France. Et je me souviens que Madame Pécresse était une fervente opposante à la réforme des rythmes scolaires. Or, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le pays où nous avons l'année scolaire la plus courte, mais les journées scolaires les plus longues. Les journées scolaires de nos lycéens sont très longues, mais ça n'est pas seulement en 10 ans, on va les faire commencer à 9h, qu'on va régler les problèmes. Il faudrait peut-être aussi se pencher sur l'année scolaire des lycéens pour traiter le problème globalement et non pas avec des coûts qui sont un peu des coûts médiatiques et de publicité passagère.
Merci Yannick Trigance. Je
Merci
rappelle que vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France et président du Conseil national du PS. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.